Marie Webb, Le précieux fléau. Livre 2, chapitre 5. Le filage d'amour. Il fallut un certain temps avant que nous fussions prêts pour la fête. Et cela, bien sûr, à cause du jeu des gâteaux. Un bon nombre de dévots y voyaient d'un grand mal, car c'était un jeu de hasard. Mais pour nous autres femmes, qui menions une vie si terne et effacée, il apportait un peu d'amusement, et même la femme du Saint-Christin assura qu'elle viendrait et amènerait Ivy. Elle pria Madame Béguidi de choisir le jour qui mènerait le sacristain, partant avec le pasteur, dans une contrée éloignée où il devait considérer le cas d'une femme adultère. Elle savait bien que son mari voudrait rester jusqu'à la mère dénouement, et qu'il ne pourrait rentrer qu'aux petites heures du matin. Et quand bien même il apprendrait qu'elles avaient participé à la fête, le contentement qu'il aurait de la punition de la pécheresse serait tel qu'il ne ferait que maugréer au lieu de se mettre en colère. Ce nom de « jeu des gâteaux » venait de ce que nous jouions les gâteaux aux cartes. Pour dire la stricte vérité, c'était bien un jeu d'argent. La femme qui donnait la fête faisait une grande fournée de gâteaux, biscuits au safran ou génoises, et les vendait un sou l'unité. Nous jouions et gagnions ces gâteaux. Les perdants devaient en racheter, si bien qu'un bon joueur pouvait partir avec un gros panier rempli ou en revendre aux perdants à 2 sous la pièce. On n'aurait pas pu retenir mère. Il fallait qu'elle vienne. Gédéon avait promis de s'occuper de nos tâches, aussi pûmes-nous partir tôt. La journée serait entièrement prise, d'abord par le filage le matin, puis, après la pause déjeuner, on s'adonnerait aux cartes. Ce fut une délicieuse matinée fraîche, avec un vent léger, plein des senteurs de notre foin. Rien de tel que ce parfum pour rappeler l'été en plein hiver. Quand je le respire maintenant, je revois les longues vagues herbeuses, chatoyant comme du velours vert, les grosses têtes rouges des trèfles et les râles des genêts, courant sous l'herbe épaisse assombrie par la rosée. Mais à cette époque, cette odeur de foin évoquait pour moi le dur labeur que cela nous avait coûté, combien nous avions travaillé et transpiré jusque tard à la clarté de la lune, puis à peine couchés, le temps d'un rêve, de nouveau, nous nous étions levés tôt pour besogner et suir encore. Tout de même, cela sentait bon. Comme sentait bon le feu de broussailles des haies de Gédéon, l'épais tapis de feuilles dans le bois, ainsi que la pinède, où pépiètent et jouaient sans discontinuer des mésanges à longue queue. Mère était superbe dans son large bonnet et sa pèlerine, et ressemblait à un oiseau plein de gaieté, avec ses yeux bruns vifs et ses joues rouges. Nous avions pris des petits rouets, puisque nous devions filer, non de la laine, mais du lin et du chanvre. Ce fut donc plus facile pour moi de les porter. L'étang était encore gelé dans sa partie nord, pourtant, même si l'on n'était encore qu'en février, à voir le remue-ménage de nos mères le dos et le va-et-vient de nos corneilles, préparant leur nid, on sentait le printemps tout proche. Il y avait aussi des pousses, en forme de langue, sur nos lianes de chèvrefeuille, d'un vert si brillant qu'elles me faisaient penser aux langues de feu tombées du ciel. Dans cette saison morte, apparaissant avec une telle promptitude et dans une telle fraîcheur, elles avaient sur moi un retentissement plus grandiose qu'en leur pleine floraison d'été. Quand nous traversâmes la chênaie, mère caressa complaisamment ses gants et dit « Je n'ai pas à m'occuper des cochons aujourd'hui, je suis une grande dame. »« Parfaitement, dis-je, grâce à Dieu, c'est ce que tu es, parce que j'aimais tellement quand elle était un peu contente. » Je poursuivis en disant qu'elle gagnerait sûrement suffisamment de gâteaux pour nous nourrir une semaine de 9 jours. « Est-ce que tu crois, ma chérie, que Jancy sera une bonne fille pour moi ?» me demanda-t-elle. « Sans aucun doute, mère, lui assurai-je. « Est-ce qu'elle me laissera ma place près du feu ? » Et est-ce qu'elle me parlera gentiment? Oh, pour sûr, voyons. Mais te fais pas de soucis. Il se passera encore bien du temps avant que ces deux-là disent oui dans l'église. J'espère que non, car j'aimerais bien être grand-mère, Prue. Le bébé ressemblera plus à Gédéon ou à elle? Je répondis que je n'avais pas le don de double vue pour pouvoir répondre, mais que je pensais qu'il serait le portrait craché de son papa. Peut-être bien. Ce serait mieux qu'il nous ressemble à nous plutôt qu'au Begindi. C'est dommage pour un bébé d'avoir un grand-père contre lequel on prêche. Oh, dis-je, il n'y a pas tant de méchanceté en Begindi, ni d'ailleurs de bonté. Il est comme une coquille vide, joliment peinte. Je suis bien aise qu'il ne sera pas là aujourd'hui, dit-elle. Madame Begindi avait adressé, par Gédéon, un message à sa cousine de Lullingford, la priant d'envoyer quérir Begindi ce jour précis. Calmer le mal de dents de son homme à elle. Parce qu'apparemment, ce dernier s'était fait arracher une dent par le vétérinaire, qui, étant d'une force terrible, avait ébranlé le reste de la dentition, et il se trouvait dans un état permanent de souffrance. Cela occuperait Begindi d'aller le soigner. Il était si fier de son incantation qui commençait ainsi. Pierre s'assit, pleurant, sur une pierre de marbre. Et il répétait cela tant et tant, jusqu'à ce que l'on crie à grâce. Puis il plaçait un cataplasme de sel qui vous brûlait comme du feu. Et, soit que ce fût le sel, soit que ce fût le charme, toujours est-il que, la plupart du temps, le malade se disait guéri. « Ils vont le garder longtemps pour qu'il gâche pas notre affaire, » dit Mère, frappant doucement des mains comme une enfant. Nous sortîmes du bois, à l'air libre, en plein champ, et je me disais qu'aucune journée n'avait été aussi belle, et cependant, je ne savais pourquoi. Les collines du côté de Lullingford étaient bleues comme un ciel d'été, d'un bleu profond plein de promesses. Tout était beau, et pouvait même être qualifié de « somptueux », comme aimait à dire notre pasteur. Il y avait dans le soleil le grenat des terres labourées, l'or du vieux chaume, le bleu transparent de l'étang de Plache et l'écarlate du toit d'un moulin dans la vallée. Toute la prairie était d'un vert clair, de ce vert que l'on voit sur les vitraux de l'église ou de celui des collines lointaines, sur lesquelles ne poussait point l'herbe, mais le trèfle du calvaire. Même un jour d'été n'aurait pu rivaliser avec pareil jour, alors que la neige venait à peine de fondre et les eaux de se libérer de la glace, et que tout brillait de la terre au ciel. À la maison de Pierre, l'éclatant feu de cheminée qu'on apercevait par la fenêtre vous laissait deviner que quelque chose d'inhabituel s'y préparait. Jensis arriva en courant à la porte et fit à Mère une révérence avec beaucoup de grâce. Nous étions les premières, si l'on excepte la polie du meunier et sa mère. Elles arrivaient toujours et partout les premières, parce que, disait-elle, une heure hors de chez elle était une heure en paradis. Elle n'expliquait pas plus avant, sauf si vous insistiez lourdement pour savoir pourquoi. Était-ce à cause du moulin, de son eau ou de quelque autre chose? Alors elle répondait que c'était à cause du meunier. Et si vous demandiez pourquoi, qu'est-ce qui n'allait pas avec cet homme? Elle rétorquait, l'avez-vous vu sourire ou éclater de rire une seule fois? Et effectivement, ce n'avait jamais été le cas. Il avait aussi un problème d'élocution. Alors, l'un dans l'autre, il n'y avait rien d'engageant à passer ses journées avec lui. On racontait sur lui cette fable absurde. Ayant d'abord été amoureux d'une sirène, celle-ci, à son mariage, lui lança un sort et le condamna au silence. La femme du meunier était une petite créature, comme un verre de farine, mais elle parlait avec beaucoup d'amabilité. La femme du sacristain était exactement l'inverse. Elle me faisait toujours penser à un grand et large coche, nouvellement peint, lancé à toute vitesse sur la grande route, au son joyeux et bruyant du cor. Elle était aussi rayonnante de gaieté dans sa robe qu'une ninote aux sept couleurs. Et si elle pouvait rajouter un châle, un volant ou une broche, elle le faisait. Elle enfilait une telle quantité de jupons que c'était merveille si elle pouvait marcher. Une fois, sa fille m'a dit que la voir se déshabiller, c'était comme voir peler un oignon jusqu'au cœur. Et tu vis, n'était pas fille à faire des blagues. C'est dire que ce n'était pas rien de la regarder se déshabiller. Quand je les voyais tous deux, elle et son mari, je me faisais souvent la réflexion qu'elle ressemblait à une grosse pelote de laine colorée, et lui, à un mince fuseau noir sur lequel elle allait s'enrouler. Quand Ivy et elle arrivèrent, nous étions déjà huit, et dans la pièce douillette, nos rouets ronronnaient agréablement, tandis que nous causions. La femme du Bouvier, de la ferme de Plage, vint ensuite, avec ses deux grandes filles bien calmes et effacées, malgré leur taille. Les gens disaient que leur père les attachait aux joues des bœufs tous les samedis soirs, et les battait pour leur rappeler les bonnes manières. Elles se levaient toujours quand leur mère leur parlait et penchaient leurs longs coups comme des signes dociles. La douzième fut la femme du berger de la lande au-delà de Plache. C'était une personne étrange mais agréable à regarder, et les hommes y étaient sensibles. Elle avait les épaules tombantes, les hanches fines et des cheveux comme des ailes de merle. Ses yeux étaient vert clair, son visage avait un beau teint de pêche mûre, et elle se souriait à elle-même d'un air mystérieux, comme ferait une fée. On disait, mais était-ce avec un brin de vérité, je ne sais, que le berger ne payait pas la lande qui appartenait à un tavernier de Silverton, mais que Félena, sa femme, le jour de la Saint-Jean, grimpait sur les rochers en haut de la colline et y passait la nuit avec le tavernier. D'autres histoires plus curieuses circulaient sur elle. On y décrivait sa présence en tenue d'Ève au clair de lune dans un cercle de moutons et de bœufs, et comment une créature velue avec des cornes de bouc, qui ne pouvait être que le diable, arrivait et dansait avec elle, sautant et se trémoussant au milieu du cercle de bêtes qui mugissaient doucement. Mais à moi, elle semblait une personne aimable, sans malice, et très habile dans tout ce qu'elle faisait. Je voyais bien que la femme du Bouvier ne tenait pas à ce que ses filles soient près d'elle pour filer. Elle était d'une telle respectabilité et d'une telle hauteur de vue qu'elle n'abordait jamais ce qui avait bien pu se passer entre les bancs et le baptême, et n'évoquait rien de ce qui occupait les jeunes mariés durant cette période. Elle s'abstint de parler à Félena, et ce fut mère qui lui dit fort gentiment « Vous filez comme une fée, madame Félena. » Il n'y a rien d'autre à faire dans les montagnes, répondit Félena d'une voix basse et chantante, que filer, filer et filer, matin, midi et soir.
Sauf pendant la nuit de la Saint-Jean, glossa la femme du sacristain, parce que, m'a-t-on dit, vous avez beaucoup à faire cette nuit-là.
Félena devint écarlate et pencha la tête, et tout à coup, Molle et Sequet s'exclamèrent, comme si depuis des années elles en avaient eu envie.
« Oh, madame Félena, est-ce que c'est vrai que vous dormez avec le tavernier et que vous dansez toute nue ?»
Jamais je n'ai vu femme si en colère que leur mère.
« Ce qui est molle » cria-t-elle.
« Mère très honorée »
dirent-elles dans un souffle.
« Vos mains !»
reprit la mère. Et se baissant pour ôter sa sandale qu'elle avait mise parce que c'était la fête, elle en frappa durement les mains de ses deux filles, tant et tant qu'elles hurlaient. J'ai appris par la suite que l'une avait épousé un fermier et l'autre un cocher à la retraite, et toutes les deux se conduisirent bien. Ce n'aurait pas été faute de correction si elles s'étaient mal conduites. Elles se remirent à filer, silencieuses comme des souris, et reniflant au-dessus de leurs rouets. Madame Bédidi était très ennuyée, parce que la fête tournait un peu tristement. Aussi demandai-je à Jancis de chanter le gravier vert, pour nous réjouir un peu. Nous chantâmes toutes avec elle. Polly y compris, qui toussait de temps à autre. Félina chantait d'une voix fraîche. La femme du sacristain chantait très fort, mère, d'une voix chevrotante, et la femme du meunier, comme un oiseau venant de quitter sa cage. Si bien qu'avec les chants et le ronronnement des rouets, la cuisine était comme un arbre plein de sansonnets. C'était déjà le moment de s'arrêter, de filer, quand mère voulut que l'on chantât « L'Éternel est mon berger ». Après cela, je demandai, il m'emmena dans sa demeure et sa bannière était l'amour. Ce fut alors que, tandis que nous chantions ce cantique, dans le ronronnement des rouets, il y eut un bruit de pas à l'extérieur, puis une bouffée d'air frais, en même temps qu'un rayon de soleil qui s'étendit de la porte jusqu'à moi, et il se tint là, dans la lumière, le regard posé sur nous. Je viens de dire « il », comme si vous pouviez, vous aussi, le reconnaître parmi tous les hommes de la terre, ainsi que je le fis. Il se tenait donc dans l'embrasure de la porte, et je jaillis de ma chaise, située dans la pénombre au fond de la pièce, comme s'il était l'invité que j'attendais.